Les insectes représentent la classe la plus vaste du monde animal et le nombre d'espèces répertoriées dépasse le million sur notre planète. Les insectes sont donc partout et chacun de ces animaux présente des caractéristiques singulières. Christophe Bouget, qui est docteur en écologie, a rassemblé dans un ouvrage paru chez Quai une galerie de portraits d'insectes aux mœurs et aux capacités étonnantes. Il est l'invité dans un instant du dossier pour nous en parler avec à ses côtés l'entomologiste Arnaud Aurélou. J'attends toutes vos questions dès maintenant par mail. Retenez bien donc l'adresse à laquelle nous écrire, latteteaucarré@radiofrance.com ou sur le compte Twitter et le Facebook de l'émission. Et de deux, à la une de la science aujourd'hui, la deuxième détection directe des ondes gravitationnelles. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui, pour la deuxième fois, l'espace-temps a tremblé pendant presque une seconde sous les yeux des scientifiques. Et encore une fois, c'est la fusion de deux trous noirs qui en est l'origine. Les ondes gravitationnelles, la suite, c'est dans un instant.
Il a tremblé pendant une seconde ou pendant une minute ?
Une seconde.
Une seconde, voilà, ce sera donc à la une dans quelques minutes. Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission qui a été préparée par Dylan Byner.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Dans les secrets des insectes, c'est donc le dossier dans un instant de la tête au carré. Christophe Bouget et Arnaud Aurélou, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Christophe Bouget. Quel est le comportement le plus bizarre qu'il vous ait été donné d'observer chez les insectes ? Il y en a beaucoup, il y a le choix. Hein.
Question compliquée, en effet, ouais. Il y en a beaucoup, il faut bien faire un choix. Le mien, ce serait un ensemble de mœurs, de petits scarabées qui vivent à nos portes, dans nos forêts françaises. On les appelle les scolytes xylébores. Ils s'accouplent entre frères et sœurs. Ils cultivent des jardins de champignons dans le bois et les filles aident leur mère à élever leur sœur.
Bon, tout un programme. C'est une drôle de famille, en tout cas. Arnaud Aurélou, on en découvre encore beaucoup de nouveaux insectes.
Alors la question n'est pas tellement plus simple, parce qu'il y en a énormément et parce qu'on sait mal ce qu'il y a sur les Outre-mer, notamment en France. Mais pour la métropole, on est à peu près entre les espèces nouvellement décrites pour la science et les espèces nouvellement détectées en France, environ 80.
Bon, et les inventaires se poursuivent toujours.
Oui, bien sûr, sans fin.
On se retrouve dans un instant donc pour découvrir mille et une curiosités du peuple à six pattes avec bien sûr les messages des auditeurs. Et de deux donc pour les ondes gravitationnelles, les scientifiques qui travaillent sur les détecteurs LIGO et Virgo confirment l'essai donc avec la détection directe d'un deuxième signal. Les données dévoilées hier décrivent une danse entre deux trous noirs qu'on appelle aussi une coalescence et qui a eu lieu il y a 1,4 milliard d'années. Pour nous en parler, Aurélien Barraud est avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Et puis avec nous en studio pour détailler cet événement, Philippe Hénarejos pour le magazine Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Un deuxième signal avec des trous noirs plus petits cette fois-ci, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est la même configuration que la première détection qui avait eu lieu donc en septembre 2015. Là, l'événement a été enregistré le 26 décembre. C'est à nouveau deux trous noirs. La particularité, c'est que les premiers, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils nous posaient un peu problème parce qu'ils étaient un peu trop gros. Ils faisaient autour de 30 masses solaires. Et pour des trous noirs stellaires, on ne savait pas trop si c'était bien. On cherchait, on a fouillé, on a exhumé des modèles pour essayer de comprendre comment des étoiles pouvaient donner des trous noirs aussi gros. Là, on est dans la norme. On est dans des trous noirs stellaires classiques de 14 et 7 masses solaires qui ont fusionné pour faire quelque chose autour de 20, 21, 21 masses solaires.
Axel. Alors, oui, Aurélien Barraud, les ondes gravitationnelles, c'est encore frais pour tout le monde. Quelle est la véritable nature de ces ondes-là qu'on capte alors pour la deuxième fois ?
Oui, c'est encore frais et ça reste encore très magique finalement parce que nous sommes encore au balbutiement de cette astronomie qui s'ouvre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce ne sont pas, à la différence des ondes électromagnétiques de la lumière, ce ne sont pas des ondes qui se déplacent dans l'espace, mais c'est l'espace lui-même qui se met à vibrer et ce sont les petits tressaillements de la trame spatio-temporelle de l'univers qui se dévoilent et qui, en même temps que de nous faire comprendre un petit peu ce qu'est ce monde dans lequel on vit, dans sa structure fondamentale, révèle également des astres nouveaux. Et donc c'est quelque chose qui, de ce point de vue, est doublement extraordinaire.
Quand vous dites petit tressaillement, à quel point petit ?
Oui, alors c'est absolument minuscule. Il faut se rendre compte que la distance, la petite variation de longueur qui est induite par le passage de ces ondes correspond grosso modo à la taille d'un atome par rapport à la distance Terre-Lune. Donc c'est quelque chose d'extraordinairement faible. C'est pour ça qu'on a été si long à le mettre en évidence. Et la raison de cette faiblesse, c'est qu'en fait l'espace est un matériau extraordinairement rigide. Si l'espace était un caoutchouc, ça serait un caoutchouc très très difficile à tordre.
Aurélien Barraud, justement, là comme dans la première observation directe, ce sont deux trous noirs en fusion, donc, et c'est le scénario qui se reproduit là exactement de la même manière ?
Alors, pas tout à fait exactement la même manière, puisque comme le disait notre collègue, les trous noirs cette fois sont un peu plus petits. Donc le signal a été beaucoup plus difficile à mettre en évidence. Hein. Le premier se voyait comme le nez au milieu de la figure. C'était presque trop beau pour être vrai. Hein. Ouais. Vous vous souvenez qu'on s'est même demandé si c'était pas une blague pendant quelques mois avant de s'assurer que c'était bien un signal réel. Celui-là a été très difficile à mettre en évidence du point de vue visuel. Il est perdu dans le bruit, il est noyé dans les données et il révèle des trous noirs un peu moins massifs que les premiers.
Alors Philippe Hénarejos, deux détections, peut-être trois, une oui. qui n'est pas complètement confirmée. On peut commencer à faire des travaux avec trois détections ?
C'est exactement ce que je me demande. C'est-à-dire que vous avez un détecteur ultra moderne, tout à fait nouveau, qui ouvre une nouvelle fenêtre sur l'astronomie, qui est mis en fonctionnement pendant 4 mois. Et dans ces 4 mois, vous avez 2, voire 3 détections déjà d'événements. Ces événements ne sont pas forcément ceux qu'on attendait les premiers. C'est-à-dire les fusions de trous noirs n'étaient pas forcément aussi fréquentes. Bon, alors, faut quand même avoir à l'idée que ces détecteurs-là, ils observent pas dans une direction, ils observent dans tout l'univers, dans toutes les directions. Donc, ce qu'on reçoit, ce sont les ondes gravitationnelles d'événements qui ont lieu dans tout l'univers. Et en tout cas, détectables par le détecteur. Donc, on en a 3, peut-être 2 ou 3. En 4 mois, est-ce que il n'y a pas déjà une indication astrophysique sur le nombre de trous noirs qui fusionnent, sur le nombre aussi d'étoiles à neutrons et d'étoiles naines blanches qui devaient fusionner et que pour l'instant on ne voit pas? C'est très intéressant parce qu'on est au début, on commence à faire de la science.
Ouais, Aurélien Barraud, avec 2 détections seulement directes pour l'instant, on peut déjà extrapoler et en tirer des conclusions?
Oui, je le crois. Et ce qu'on voit ici à l'œuvre, c'est qu'il y a finalement une double démarche dans toute observation astrophysique. Il y a d'une part le test de la théorie, et ça c'est quelque chose qui est déjà avéré, finalement la relativité générale marche bien, y compris dans cette prédiction. Et puis il y a le deuxième volet, et c'est celui-là qui est en train de s'ouvrir en ce moment, c'est l'utilisation de la théorie, non pas pour la comprendre elle-même, mais pour comprendre les objets qu'il y a dans l'univers. Et ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est que finalement la relativité générale, on la maîtrise très bien, et on va pouvoir l'utiliser comme une nouvelle sonde, c'est un peu comme si on était doué d'un nouveau sens, pour comprendre ce que sont, entre autres, les populations de trous noirs dans l'univers. Et ça c'est très intéressant, parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. C'est très dur en même temps de tester la théorie et de tester les objets. Et là, on est dans une phase où la théorie est suffisamment bien contrôlée pour qu'on puisse se poser la question, quelle est la population de trous noirs dans les galaxies ?
Mais justement, si maintenant on ne voit pour l'instant que des trous noirs, est-ce que c'est parce que c'est les événements les plus courants ou les plus faciles à observer ?
Oui, bah c'est un peu les deux, et comme effectivement on vient de le rappeler, c'est pas ce qu'on attendait, et c'est ça qui est beau. On est toujours surpris en science, on construit des instruments, on demande des financements en justifiant ce qu'on croit bientôt pouvoir observer, et ce qui est magnifique, c'est qu'on est très souvent surpris, ce qu'on détecte n'est pas ce qui a été prévu, et c'est ce petit moment comme ça de tressaillement intellectuel, hein, c'est un peu comme une onde gravitationnelle dans notre cerveau, d'un seul coup, on se rend compte que le monde est toujours plus merveilleux, plus diversifié et diapré que ce qui avait été prévu. Et en effet, comme vous le suggérez, c'est une conjugaison de 2 facteurs. D'une part, parce qu'on avait mal estimé la probabilité de ces coalescences de trous noirs, mais d'autre part aussi, bien sûr, parce que ce sont des phénomènes tellement cataclysmiques, mais ça on le savait déjà, qu'ils sont beaucoup plus faciles à détecter que la coalescence de naines blanches ou d'étoiles à neutrons.
Philippe Hénarejos.
Oui, c'est vrai que ça me fait penser à un parallèle avec la détection des premières exoplanètes. Les premières qu'on a découvertes, c'était des Jupiters qui tournaient en quelques jours autour de leur étoile. Or, à l'époque, si on s'était mis à chercher Jupiter, on aurait pensé à des planètes qui tournent en 12 ans autour de leur étoile. Et les premières qu'on a trouvées, c'était les choses les plus évidentes pour le détecteur, mais c'était aussi les choses les plus étranges, celles qu'on attendait le moins. Ouais. Et c'est sans doute ce qui est en train de se passer, et les cosmologistes commencent à s'en emparer, certains commencent à se dire, est-ce que cette population de trous noirs qui semble être plus importante que ce qu'on croyait, ne serait pas, par exemple, une solution à l'énigme de la matière noire, cette fameuse matière qui manque. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé le nombre d'objets qui sont dans l'univers autour des galaxies ?
Et bien Aurélien Barraud, qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là ?
Moi, je crois que c'est une idée qu'il faut creuser. La matière noire, c'est un des plus vieux problèmes de la cosmologie. Ça fait plus d'un demi-siècle qu'on sait que l'essentiel de la masse de l'univers nous échappe. Donc, toutes les hypothèses sont bonnes à prendre. En ce qui me concerne, j'accorderais une assez faible fiabilité à celle-ci, parce que je crois que pour différentes raisons théoriques, elle est relativement peu crédible. Mais il faut creuser cette voie. Nous n'avons aucune bonne idée à l'heure actuelle pour la matière noire. La seule que nous avions est en train d'être exclue par l'accélérateur LHC. Donc, très clairement, c'est réjouissant que de nouvelles nouvelles hypothèses voient le jour.
Alors encore un dernier mot, Philippe, parce que les deux détecteurs LIGO et Virgo sont à l'arrêt en ce moment. Oui. Ils vont être remis en route en fin d'année et ils vont fonctionner simultanément. C'est-à-dire que là, on peut s'attendre à une moisson de découvertes d'ampleur.
C'est ce qu'on espère. C'est-à-dire que LIGO devrait redémarrer en août ou septembre. Je ne sais pas s'il n'y a pas un petit peu de retard. Initialement, on pensait que c'était en août, ouais. Donc ça risque d'être septembre. Et Virgo va démarrer, lui, qui est celui qui se trouve en Italie, oui. À peu près dans ces eaux-là, peut-être un peu plus tard. Mmh. Donc, si les deux fonctionnent, ça permettra notamment de mieux cerner la distance et la localisation des événements qui seront découverts. Mais il reste à voir si ces délais seront tenus, notamment pour Virgo, puisque c'est quand même une mise en route, une première.
Ouais. Et cette simultanéité, Aurélien Barraud, elle vous laisse attendre de très belles surprises aussi ?
Ah oui, c'est formidable. On va commencer à pouvoir faire vraiment de l'astronomie au sens strict, c'est-à-dire de savoir où se trouve la source. Et ça, c'est génial, parce que non seulement on va pouvoir identifier les galaxies hautes, mais on va même peut-être pouvoir commencer à utiliser ces ondes de gravité pour faire de la cosmologie, pour sonder par exemple la manière dont l'univers est en train d'accélérer. Et ça, c'est extrêmement réjouissant.
Merci infiniment à tous les deux pour vos commentaires sur donc cette deuxième détection directe des ondes gravitationnelles et la troisième qui devrait être confirmée aller dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Philippe, vous aviez l'air bien au courant en tous les cas.
Oui, oui, oui.
Allez, merci beaucoup. Merci Axel.
À bientôt.
À demain. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, toujours dans l'espace, la NASA qui a découvert la plus grosse planète en orbite autour de deux étoiles grâce à Kepler, ce télescope qui n'en finit pas de nous donner des résultats extraordinaires. Baptisé Kepler 1647b, cette planète est une gigantesque Tatooine pour ce nom donné en hommage à la planète natale de Luke Skywalker dans la saga Star Wars et qui possédait également deux soleils. Située à 3700 années-lumière de nous, cette planète a environ 4,4 milliards d'années et une masse semblable à celle de Jupiter. Vous pouvez dire adieu au Mélomyse rubicola, ce petit rongeur serait le premier mammifère à disparaître à cause du réchauffement climatique selon des scientifiques de l'université de Queensland en Australie. L'animal vivait sur une petite île près de la côte nord du continent océanique, mais depuis 2009, Mélomyse n'a plus donné de signe de vie. En 2014, 900 pièges, 60 appareils photo avaient été déposés pour le détecter, mais en vain. Pour les experts, l'élévation du niveau de la mer et les événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents ont eu raison de lui. À cause du réchauffement, une espèce sur 6 est menacée de disparaître d'ici à la fin du siècle. Et puis enfin, les embryons d'oreillettes aux yeux rouges, ces grenouilles vivant dans les forêts tropicales d'Amérique centrale, sont capables de sortir de leurs œufs dès qu'ils se sentent menacés par un serpent, avant même d'ailleurs qu'ils n'arrivent au terme de leur développement. Publié dans la revue Journal of Experimental Biology, des scientifiques ont enfin compris ce réflexe de survie très précoce. Les têtards sécrètent des enzymes qui dégradent la membrane de l'œuf. Ils utilisent donc leur force physique pour s'échapper. Les chercheurs ont pu filmer ce phénomène au ralenti en laboratoire et cette vidéo est à retrouver sur la page Facebook de La Tête au Carré. Secret d'insecte dans un instant.
Just you know why you and I will fly and buy. Just you and I, no true love wears. Throughout the days, our true love wears. We'll bring us joys to share with those who really care. And we'll know why, just you and I, no true love wins. Thank you.
out the days. Our true love ways will bring us joys to share with those who really care. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and we'll know why. Just you and I know true love.
Voilà, vous avez peut-être reconnu la voix de Françoise Hardy qui reprenait ce titre de Buddy Holly sur un nouvel album qui sort, produit par Dominique Blanc-Francard, et qui a demandé à un certain nombre d'artistes d'interpréter les chansons qui avaient marqué leur enfance. Et à l'instant, c'était True Love Ways.
La tête au carré sur France Inter.
Secret d'insecte, mille et une curiosités du peuple à six pattes, et bien c'est ce livre et le dossier de l'émission. Christophe Bouget, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, publié aux éditions Quay, avec les dessins de Gérald Goujon, on peut le citer. Vous êtes ingénieur, docteur en écologie et chargé de recherche en entomologie forestière à l'IRSTEA. Et puis à vos côtés, Arnaud Aurélou, vous êtes entomologiste au Muséum National d'Histoire Naturelle, et vous avez été conseiller d'un autre livre qui est sorti il y a quelques jours sur les coléoptères, ceux du bassin parisien. Alors c'est très localisé, hein. Guide d'identification de terrain, qui est sorti aux éditions Delachaux et Niesley. Les auditeurs nous rejoignent déjà. J'ai des questions pour vous avec cette adresse à composer dorénavant pour nous rejoindre. C'est la tête au carré at radiofrance.com, et puis également sur le compte Twitter et le Facebook de l'émission. Christophe Bouget, je parlais d'un million d'espèces d'insectes sur la planète. C'est la bonne estimation a priori. On est autour de ce chiffre.
Ça, ce n'est pas une estimation. Ça, c'est le nombre d'espèces qui ont été déjà décrites.
Ouais, d'accord.
Les estimations tournent plutôt entre 5 et 80 millions d'espèces, ouais. Donc à décrire.
Ouais. Alors, ça veut dire que ce sont des espèces qu'on n'a pas encore découvertes ou...
Qu'on n'a pas encore découvertes, ouais. Absolument. Notamment dans les régions intertropicales ou dans les régions tropicales qui sont très très mal décrites. Pour rebondir, ouais, sur ce que disait Arnaud Aurélou tout à l'heure, c'est simple, hein, si on se projette sur le rythme de description actuel, on estime qu'on décrit à peu près 10 000 espèces par an d'insectes.
Ouais.
Hein. C'est un métier d'avenir, s'il en reste 5 à 80 millions à décrire, il nous faudra, ouais, quelques millénaires pour le faire.
Oui. Donc il y a du boulot, hein, en entomologie, Arnaud Aurélou. Hein, pour les inventaires, on pourrait engager un sacré nombre de scientifiques. Hein.
Alors certes, mais pour faire un inventaire, il faut déjà avoir des espèces décrites, puisque les inventaires ne décrivent pas des espèces. Ils observent des espèces qui ont déjà un nom. Donc il y a bien deux travaux distincts. Il y a découvrir toutes les espèces qui existent sur Terre et savoir où se trouvent ces espèces qui, cette deuxième démarche, sont les inventaires.
Mais est-ce qu'il y a des expéditions qui sont organisées justement pour aller découvrir des espèces jusque-là inconnues ?
Ah bien sûr, souvent les expéditions d'ailleurs font les deux ensemble. Hein. Mm-hmm. Il y a eu une expédition il y a un an et demi en Guyane notamment, hein, l'expédition Planète Revisitée auquel le muséum, oui, a participé. Et effectivement, de nouvelles espèces ont été découvertes.
Ouais. C'est une belle moisson alors, comment ça se passe dans ces cas-là ? On découvre un nombre important de nouvelles espèces ?
Alors, pas forcément, parce que souvent le problème de ces terrains tropicaux, c'est que on le fait que sur une toute petite surface, on n'a pas beaucoup de moyens de déplacement, c'est assez, mm-hmm, difficile. Et puis en tropical, les strates d'arbres, etc., tout est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus volumineux, et donc on fait finalement un coup de sonde. Mais rien que sur un coup de sonde, les résultats sont significatifs.
Ouais. En France, on a une bonne estimation là aussi du nombre d'insectes sur le territoire, Christophe Bouget.
Oui, une bonne. Évidemment, il y a des groupes qui sont relativement orphelins et moins bien décrits que les autres, mais on estime qu'il y a à peu près 40 000 espèces d'insectes en France.
Ouais.
Donc pour mettre ça en regard du million d'espèces qu'on évoquait tout à l'heure, décrites, 40 000 décrites, quelques-unes non décrites. Alors dans les non décrites, ce qu'il y a aussi, c'est souvent des espèces qui se cachent derrière des espèces qu'on connaît. Deux espèces qui sont entre guillemets jumelles et qu'on décrira par la suite.
Ouais. Voilà. La classe des insectes, donc, c'est la plus vaste du règne animal, simplement.
Absolument. Hein. C'est réellement la success story évolutive, oui, alors, de la planète Terre, faut être
oui,
franc.
Absolument.
9 espèces animales sur 10 sont des insectes. Et encore, hein, vu le nombre d'espèces non décrites, comme on le disait tout à l'heure, la proportion pourrait augmenter.
Ouais.
Sur un plan statistique, on pourrait dire qu'un animal, c'est un insecte. Mmh. Voilà. Avec le taux d'incertitude ou la marge d'erreur, tous les animaux sont des insectes.
C'est une drôle de formule, mais.
Grossièrement.
Effectivement, oui.
Voilà.
Donc, les animaux animaux à six pattes, ça marche bien, quoi.
Ça marche pas mal. Ouais. Et ce qui est épatant, c'est que ça fait 400 millions d'années que ça marche pas mal.
C'est l'apparition, là, des insectes?
C'est entre 400 et 500 millions d'années. Et on s'aperçoit que le plan d'organisation de ces insectes a assez peu évolué. C'est six pattes, c'est une paire d'antennes, c'est un corps en trois parties, c'est deux paires d'ailes plus ou moins modifiées. Et ça, ça n'a pas tellement bougé depuis 400 millions d'années. Ouais. Et c'est un succès qui est dû à différentes innovations. Par exemple, les insectes, ça a été les premiers à savoir voler. Et pendant 150 millions d'années, ils ont été les seuls à occuper la Terre aérienne, ouais, je dirais. Et donc, c'était une niche vide extraordinaire.
C'est ça. Ouais. Voilà. Et alors, ils ont échappé à toutes les grandes catastrophes écologiques de la planète, quoi.
Absolument. Hein,
toutes les grandes extinctions, les insectes sont restés.
Les insectes sont restés. Leur niveau de diversité a assez peu évolué. Il n'y a pas eu ni de pic, ni de décroissance massive. Ouais. C'est vraiment un groupe qui est en réussite. Mmh. Alors, la réussite, elle est multifactorielle. Hein. C'est leur taille, leur petite taille, qui leur permet d'occuper un tas de niches écologiques évidentes. C'est leur fécondité. C'est le fait qu'il y a un cycle en deux phases, des larves et des adultes, qui rentrent pas en compétition, hein, de fait. C'est un.
Et leur créativité, hein, si on en juge par le nombre de comportements que vous décrivez dans cet ouvrage, c'est probablement aussi une des clés de leur succès évolutif. Arnaud Aurélou?
Oui, en fait, c'est une success story, bien qu'elle ait une limite, c'est que les insectes n'ont pas envahi les océans, les mers. Ça, c'est effectivement la limite, le seul endroit où les insectes ont échoué.
C'est quoi la barrière salée? C'est l'eau, tout simplement.
On pense que c'est principalement la compétition avec d'autres groupes qui étaient mieux adaptés à l'eau, comme les crustacés notamment.
Absolument, absolument. Et le paradoxe, c'est que les insectes sont des crustacés qui sont sortis de la mer, mais finalement, en ayant occupé tout des déserts au pôle, ils sont assez peu retournés à l'eau marine. C'est vrai, il y a très très peu d'espèces, et très très peu d'espèces qui sont pélagiques. Il y a quelques espèces qui sont littorales et flottantes et non pas aquatiques. Il y a assez peu d'espèces qui sont pélagiques, absolument.
Allez, les premiers fossiles, parce que vous parlez de 400 millions d'années, on a vraiment une preuve matérielle de cette datation?
Absolument.
C'était quoi, un insecte pris dans l'ambre ou ça ressemblait à quoi?
Alors, c'est pas pris dans l'ambre, c'est pris entre des couches de calcaire, de dépôts sédimentaires. Hein. Ouais. Donc évidemment, c'est les restes de cet insecte-là, hein. C'est la chitine qui compose la grosse partie des insectes qui a été conservée. Donc c'est un fossile, ce sont des fossiles extrêmement visibles.
Et c'est quel insecte, en l'occurrence, ancien?
Alors, je serais bien incapable de vous le dire.
Parce que vous disiez qu'il y avait peu de changements, au fond, dans cette évolution. Donc, les formes qu'on trouve aujourd'hui existaient de la même manière, hein, il y a 400 millions d'années.
Alors, on les appelle parfois paléo quelque chose. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, c'était un paléodictyoptère, qui est le plus ancien insecte. Donc, pour schématiser, une paléoblate. Voilà.
Bon, très bien. Paléoblate, on voit bien maintenant. Justement, au niveau de la taille, là aussi, vous en parlez. On va du minuscule à du géant. Toute proportion gardée, évidemment, on est dans le monde des insectes. Hein, mais quand même, on parle du millimètre. Millimétrique avec les trips, c'est ça?
C'est ça, ou même du submillimétrique pour certaines petites guêpes qui parasitent les œufs de trips. Donc vous imaginez à quel point leur...
Ça ressemble à quoi, des trips, alors?
Les trips, c'est des petits organismes longilignes, avec des ailes plumeuses, qui sont des ravageurs de...
On en trouve chez nous, fruitiers. Ou pas?
Absolument, vous en avez sur le corps assez régulièrement, ils sont portés par les vents.
J'ai des trips sur moi sans le savoir.
Quand vous vous baladez dans la rue, oui, pas dans le studio, je pense pas.
Et donc ça, ce sont les petits, les plus petits.
Ça, ce sont les petits, absolument.
Du règne des insectes. Et ensuite, sur les géants, alors là, vous avez toute une gamme de scarabées, hein, vous avez un tableau qui nous les propose. Il y a le scarabée Goliath, hein, qui porte bien son nom.
Exactement.
Donc lui, c'est le maus costaud de la famille des insectes.
En termes de poids, oui. En termes de taille, non. Mm-hmm. En termes de taille, on est plutôt sur les insectes bâtons, les phasmes, par exemple, qui font de l'ordre de 50 cm pattes déployées.
Oui.
Ça reste modeste par rapport à l'ensemble du règne animal.
Oui.
Ce qui est assez paradoxal dans le succès des insectes, c'est qu'ils n'ont jamais atteint des tailles faramineuses. Les plus gros fossiles sont des fossiles de libellules qui faisaient 70 cm de long et d'envergure. Ça reste des animaux de taille modeste.
Ouais. Ce sont les phasmes qui passent plus de 70 jours à copuler ou pas?
Ah, certains, oui.
Hein, c'est ça,
La fidélité est une garantie de paternité.
Ça, c'est magnifique quand même. Hein. Voilà donc quelques exemples de ce livre Secrets d'insectes, mille une curiosités. On vous retrouve bien sûr dans un instant et je vous transmets les questions des auditeurs.
C'est pas surprise si je dis à m'a chanté pour pouvoir les mesures que passer, pas quoi m'a bien fin payé. Nous pas mou la grande société, n'a pour les sujets croisés, dit maman, plutôt nous chanter souple. L'espoir côté lié pour nous pas décourager, qu'à nous exister. Maman chérie, c'est où toute vie, détermination. J'ai tendre sa affection manquée, tout ça cause des situations. Garde l'anger, garde l'anger, c'est que nous tous décaprochés, maman. Contendez-moi de me river, maman, pas gain, jour sacré. L'issoute est à l'exister, la caille flérose par entrée. Pour que moi devrais chercher la vie pour pas qui tout souffrir. C'est pas une vie manquée, pareil ces jours pas nous un peu corriver. Où est que moi dévoué, chercher la vie pour pas qui tout souffrir. C'est pas une vie manquée, pareil ces jours pas nous un peu corriver, maman. Son vieille madame qui gagne courait. Pour l'y résister. Après un carré son tête cratée, l'y sourire m'en défédéraler. L'y dit petit, moi nous pas né, qui montagne pas qu'on déplace. Maman, tout le monde pas fait pour errer, monde pas fait pour trop presser. C'est parce que t'as observé qui fait guetter de charger. Où est que moi dévoué, chercher la vie pour pas qui tout souffrir. C'est pas une vie manquée, pareil ces jours pas nous un peu corriver. Où est que moi dévoué, chercher la vie pour pas qui tout souffrir. C'est pas une vie manquée, pareil ces jours pas nous un peu corriver. La 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 la.
La douce voix de Leila Makkala à l'instant sur France Inter. Le choix de Thierry Dupin pour la programmation musicale de cette tête au carré. Christophe Bouget et Arnaud Aurélou sont mes invités cet après-midi pour nous raconter plein d'histoires d'insectes. C'est l'objet d'un livre publié aux éditions Kouaé. Vous avez beaucoup sur le terrain d'ailleurs, Christophe Bouget, pour votre travail.
Absolument, oui. Ouais. Alors, moi, comme je travaille dans une équipe d'écologie forestière, ce sont les forêts françaises et notamment les forêts métropolitaines qui sont l'objet de nos travaux.
Oui.
Absolument, oui.
Et dans quel état sont ces forêts, justement, si on brosse un rapide état des lieux de la forêt française ?
C'est pas facile de le brosser de façon panoramique. Certains groupes à enjeux particulièrement sont, entre guillemets, menacés, comme dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. C'est le cas, par exemple, des groupes qui sont dépendants d'habitats qui sont sanctionnés par la gestion forestière. C'est ce qui dépend des gros arbres, des vieux arbres, du bois mort, ce qui est éliminé des forêts exploitées de façon traditionnelle. Et c'est en particulier sur ces sujets qu'on travaille.
Certains insectes dépendent directement de certaines essences d'arbres.
Absolument, il y a une spécificité d'essence qui est, pas la loi mais presque, pour la plupart des insectes, qui dépendent des feuilles de tel arbre ou du bois de tel autre.
Dans ce cas-là, on parle de symbiose vraiment entre l'insecte
et... Non. Si la dépendance est uniquement alimentaire, on ne parle pas de symbiose.
Ouais.
C'est une ressource alimentaire consommée par un phytophage, par un herbivore. On parle de symbiose quand il y a association d'intérêts entre les deux organismes.
C'est ça. Et c'est parfois le cas quand même entre certains insectes et certains arbres. Arnaud Aurélou, vous allez aussi beaucoup sur le terrain ou pas ?
Alors finalement, assez peu.
Ouais.
Parce que mon rôle, c'est de coordonner...
Vous avez l'air tout triste en le disant.
Ah, forcément, comme toute anthologie, j'aime bien aller sur le terrain, j'aime bien aller rencontrer les insectes. Mais mon rôle professionnel au niveau des insectes, c'est plus la coordination d'inventaires et notamment des inventaires d'insectes du bois mort qui font partie de ces insectes qui sont sanctionnés par le régime forestier.
C'est quoi l'instrument de l'entomologiste sur le terrain aujourd'hui? Parce qu'on a cette image du filet à papillons. Enfin, vous travaillez comment aujourd'hui?
Alors, le filet à papillons, c'est effectivement l'instrument le plus emblématique.
Ouais.
C'est aussi le plus utilisé parce que
toujours.
Tous les insectes volent, ou quasiment tous, et donc finalement, c'est un instrument incontournable, quelle que soit la spécialité, parce que bien sûr, 40 000 espèces, rien que pour la France métropolitaine, vous vous doutez bien qu'on n'est pas spécialiste de 40 000 espèces.
Ouais.
Donc on se sectorise, et donc le filet à papillon en priorité, et après, pour ce qui vit sur les feuilles, on utilise des appareils qui s'appellent des parapluies japonais, une petite nappe sur lequel on fait tomber les insectes, on utilise des lampes la nuit pour attirer les insectes, on utilise des épuisettes pour aller dans l'eau, des fauchoirs pour les herbes, bref.
Des choses assez simples, hein, Christophe Bouget. Il n'y a pas une technologie ultra sophistiquée. Hein.
Ah non, par rapport à la chronique astrophysique qui a introduit l'émission, on a changé d'échelle et
on
a changé
des ondes gravitationnelles.
Absolument. Peut-être pour ajouter, par rapport au panorama, au catalogue dressé par Arnaud, tous les dispositifs plus automatiques d'échantillonnage qui ne dépendent pas de la présence d'un entomologiste sur le terrain afin de pouvoir avoir des séquences plus continues.
Vous pensez à quoi, par exemple?
À des pièges. On piège les insectes pendant leurs activités de vol, par exemple, en lien avec la lumière, en lien avec le vol lui-même et leur préférence pour des silhouettes, etc. Ça me permet de rajouter aussi un élément, c'est que, comme le disait Arnaud, on n'est pas capable de mettre un nom sur les 40 000 espèces d'insectes, et il n'y en a que 40 000 en France. Et pourtant, il faut suivre. Il faut évaluer dans quelle mesure cette biodiversité se conserve ou se conserve pas par rapport à l'usage que l'homme français fait de son territoire.
Mmh.
Et donc, on essaie de développer d'autres outils que des outils qui dépendent du naturaliste identificateur, et notamment, par exemple, tous les outils de barcoding qui permettent d'identifier la présence d'un insecte par son barcode, son code-barre ADN, lequel est accessible par des automates de cuisine moléculaire plus facilement peut-être parfois que l'identification d'un naturaliste expérimenté.
Allez, deux questions d'auditeurs avant de partir sur le terrain autour des papillons de nuit. Jean-Paul demande, est-ce qu'on peut parler de pullulation, voire d'invasion d'insectes dans certains cas? On a ces images de criquets par exemple en Afrique.
Absolument.
Ça arrive souvent?
Absolument, ça arrive. Alors, souvent, c'est...
Pas seulement pour les criquets, d'ailleurs.
Hein. Ça arrive pour des insectes forestiers, par exemple. Hein. Et ces pullulations sont en général liées à d'autres paramètres. C'est pas uniquement des paramètres démographiques internes à l'espèce. C'est lié à la fragilité, à la susceptibilité ou à l'abondance de leurs ressources. Mettons le cas d'un insecte forestier qui va ravager les feuilles d'un arbre. Si l'arbre est fragilisé, par exemple, par une tempête, par une sécheresse, par une canicule... on peut avoir moins de défense de l'arbre par rapport à cet insecte, et puis la capacité de cet insecte à générer des populations importantes pour profiter de la ressource abondante. Mmh. Et dans ce cas-là, en effet, on peut tout à fait parler de pullulation.
Arnaud Relou.
Et d'ailleurs, généralement, une pullulation d'un insecte phytophage est suivie de la pullulation de son prédateur, très rapidement.
Tout le monde déboule à la suite.
Ce qui prouve que les phénomènes de pullulation sont quand même quelque chose qui sont prévus, d'une certaine façon, par la nature dans les cycles des espèces, avec des cycles pro-prédateurs.
Oui. Carole demande, est-il vrai que les insectes ne ressentent pas la douleur? Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet? Qu'est-ce que ça vous gère?
Question difficile. Ils ont en fait des récepteurs de pression, de vibration, mais il n'y a pas de nocicépteur au sens récepteur de la douleur comme chez les vertébrés.
On va écouter un reportage sur le roi du camouflage, l'un des rois du camouflage, c'est le papillon de nuit, un documentaire réalisé par Manuel Gutiérrez.
Ce papillon de nuit possède des ailes d'un rouge éclatant. À première vue, elles font de lui une cible facile pour un prédateur potentiel. C'est mal le connaître. Car il suffit qu'il recouvre ses ailes postérieures pour disparaître sur l'écorce d'un arbre. Et si par malchance il est repéré, il déploie alors brusquement ses ailes. Ce brusque éclair rouge surprend l'ennemi, qui, déstabilisé, se replie dans le sous-bois.
Voilà, Christophe Bouget. Un exemple parmi tant d'autres sur les stratégies de camouflage chez les insectes. Alors là, l'exemple de ce papillon, ça fonctionne très bien.
Ça fonctionne très bien. Et l'objectif de ce camouflage est évidemment de survivre, de se protéger de la prédation pour pouvoir ensuite se reproduire et faire perpétuer l'espèce. Il y a bien des exemples de camouflage, de mimétisme.
Oui, ça c'est un phénomène, vous dites, qui a été vraiment identifié au 19e siècle. On le doit d'ailleurs à un Allemand, je crois, un naturaliste allemand, sur justement ces cas de mimétisme d'insectes.
Il y a en effet toute une typologie de types de mimétisme. Oui. Qui vise à, par exemple, caractériser les mimes qui miment des espèces sans être eux-mêmes dangereux, qui miment des espèces dangereuses pour eux-mêmes faire croire qu'ils le sont. Il y a des mimes qui, en fait, sont dangereux comme d'autres et donc font partager un espèce de signal universel pour montrer aux prédateurs que ce signal universellement est dangereux, faites-y confiance. Ouais. Absolument, il y a des mimétismes batésiens, mulleriens, pécamiens, qui correspondent à cette typologie, souvent inspirée, comme vous le dites, des naturalistes du 19e siècle.
Ouais, on parlait de papillons, il y a un exemple extraordinaire qui est assez connu, c'est le phalène du bouleau, c'est ça. Absolument. Qui est lié à l'ère industrielle aussi, en Angleterre. Racontez-nous cette histoire, parce qu'elle est formidable.
Et qui, en fait, voilà, a des ressorts qui ne sont pas uniquement naturels. Alors, la phalène du bouleau, c'est un papillon de nuit de teinte blanche et grise.
Donc, à l'état naturel,
Alors, parce que la plupart du temps, c'est une phalène dont les larves vivent de feuilles de bouleau et dont l'adulte est posé sur l'écorce du bouleau, laquelle est plutôt blanche. Oui. Et dans l'Angleterre industrielle du 19e siècle, les forts dépôts atmosphériques de pollution ont fait noircir les troncs, si bien qu'une des formes préexistantes de la phalène du bouleau, qu'on appelle carbonaria, qui était plus sombre, est devenue dominante. Oui. Parce que cette forme-là fondait davantage dans le décor de cette Angleterre
et dans la pollution,
victorienne,
hein.
Dans ce décor pollué, que la forme blanche, si bien qu'elle est devenue dominante dans l'Angleterre du milieu du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le paysage industriel anglais a changé, le paysage naturel anglais a changé, et la forme carbonaria a fortement régressé. Elle est, je crois, aujourd'hui de l'ordre de 5%. Dans les populations de Biston betularia, la fameuse phalène du bouleau.
Ouais, mais ça, c'est époustouflant, parce qu'on a vraiment un cas d'évolution ultra rapide que l'homme a quasiment pu observer en temps réel. Quoi.
Alors, évolution ou impact de la sélection naturelle, mais ça démontre, à mon sens, et c'est, je pense, pour ça que vous employez le terme rapide, le fait qu'on a des insectes avec des cycles annuels. Chaque année, vous avez une nouvelle génération, et donc la pression de la sélection se fait annuellement. On a, grâce à ça, des évolutions multi-annuelles. Et là, on est de l'ordre du siècle et demi, qui représente, rendez-vous compte, plus de 150 générations. C'est énorme.
Ouais. Thierry nous demande sur l'adresse tête-au-carré@radiofrance.com, les insectes seraient-ils les animaux idéaux pour un équilibre de vie terrestre parfait en vivant en symbiose avec les éléments sans les détruire ou les épuiser? Alors, ça fait référence, je pense, à ce que vous nous disiez tout à l'heure, lorsqu'ils occupaient justement tranquillement tous les écosystèmes. Qui veut répondre à cette question?
Ah, je sais pas, c'est une question qui est à la limite de la biologie et de la philosophie. Ah, c'est difficile de s'inspirer du modèle insecte pour en tirer des leçons de vie. D'autres l'ont fait. C'est amusant de voir, par exemple, que la théorie politique communiste au 19e siècle s'est longtemps inspirée des sociétés de fourmis. On appelait ça une anarchie bien ordonnée. Mmh. En observant les sociétés de fourmis, et les politologues communistes les ont largement étudiées. Mais bon, ceci dit, équilibre écosystème-population, on le disait tout à l'heure, il existe des pullulations.
Oui.
Ces pullulations, certes, sont régulées par un retour de bâton, hein, les pullulations du prédateur. Voilà, méfions-nous quand même des leçons hâtives qu'on peut tirer des inspirations de la nature.
Bon, petite philosophie express donc dans cette tête au carré. Ludovic nous envoie ce message. Dans mon pays d'accueil, Taïwan, dit-il, j'observe parfois des insectes étonnants. Certains portent comme des filaments de suif, d'autres ont des pattes incroyablement longues, des chenilles ressemblant à certaines représentations de dragons avec des yeux. Savez-vous où adresser des photos pour aider à l'identification? Demande Ludovic. Alors, comment on s'y prend quand on observe comme ça, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, un insecte un peu étrange et qu'on a envie de le faire partager avec les scientifiques?
Alors, sur des insectes français, hein, que ce soit France métropolitaine ou Outre-mer, il n'y a pas de souci. On peut les envoyer via le site national de l'Inventaire national du patrimoine naturel, hein, l'INPN. On peut les envoyer au muséum via ce média-là.
Et quand on est à Taïwan comme Ludovic, alors comment
ça, on s'y prend? Un autre problème. Il faut aller voir vers les sachants de ces territoires, donc plus des établissements scientifiques dans ces territoires, ou si on a connaissance d'un programme scientifique sur ce territoire dans un établissement proche de soi. Mais là, pour le coup,
En tout cas, vous êtes toujours hyper interpreneur hein, des observations justement des citoyens. Il y a toujours des campagnes qui sont organisées auprès de la population justement pour ces inventaires aussi.
Alors oui, tout simplement parce que déjà le patrimoine naturel c'est l'affaire de tous, que les spécialistes ont l'habitude de chercher toujours de la même façon et donc ils trouvent toujours la même chose, et obtenir des observations par des gens qui cherchent, je dirais de façon aléatoire pour ne pas dire n'importe comment, donne des résultats excessivement intéressants, surprenants et nouveaux.
Donc on n'hésite pas à passer par des sites qui existent.
Hein. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'on a monté des programmes de sciences participatives.
Et ils sont en lien sur la tête au carré.
Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux, de mon image je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Nous avons vu l'apparition du moteur Ford à explosion, puis de l'avion à réaction. Mais de toutes les inventions, c'est sans doute la bombe à neutrons qui nous laissa le plus baba au cours du célèbre Hiroshima. Mais 1990 devrait nous laisser tous pantois, devrait nous laisser tous gaga. Par ordinateur, Sonic, Fuji et Macintosh se culbutent dans les airs de roche. La guerre technologique fait rage, c'est un super média carnage. Attention, voilà les avions qui tirent, c'est l'heure de l'émission. 1990, c'est l'heure de la médiatisation. 1990, c'est l'heure de la conscientisation. Du jogging et de la cigarette, la preuve en est nos beaux soldats américains qui sont là-bas, bronzés à la vitamine D, nourris aux fibres équilibrées. Les morts qui seront faits là-bas seront en bonne santé, je crois. Les impôts du contribuable n'ont pas été payés en vain. La preuve en est, il est possible de ne jamais rater sa cible. Si on connaît le vidéo, si on se pratique le coco, bientôt disponible, bientôt qu'on étira qu'en Nintendo. En 1990, c'est l'heure de la socialisation. En 1990, c'est la démocratisation. Quand tout à coup je me sens con, assis par terre dans le salon, je ne fous rien, je suis un con. Heureusement que ma copine a soudain l'idée de génie de me toucher le porte-avions. Vite fait je lui sors mon canon. Ça va chauffer, oui mon amour. Je crois que mon radar a ion. Entraînement de la sortie de secours, je vais larguer mes bombes, attention. En 1990, j'ai mis ma participation. En 1990, j'étais dans la coalition. En 1990, en 1990.
Et c'est Jean Leloup sur France Inter.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Les dernières parties de notre dossier sur les insectes avec Christophe Bouget et Arnaud Aurélou. Toujours vos messages tête au carré à radiofrance.com et les réseaux sociaux pour nous rejoindre. Et pour évoquer les relations parfois très conflictuelles entre les hommes et les insectes, l'extrait de ce reportage de France TV Info sur le cas du frelon asiatique.
Quelques détonations en pleine campagne. La guerre est déclarée contre le frelon asiatique. C'est avec une arme habituellement utilisée pour jouer au paintball que ce professionnel tente de détruire un nid de frelons asiatiques. Une nouvelle technique testée depuis 2 ans.
Les billes vont être envoyées dans le nid et vont diffuser un insecticide qui va pouvoir tuer le nid en maximum de jours. grâce à l'insecticide qui va se diffuser dans le nid, et par contact, les insectes vont toucher ce produit et se contaminer les uns les autres. Le nid sera mort au bout de 2 jours maximum.
Le frelon asiatique est plus petit que le frelon traditionnel, mais bien plus dangereux. Le prédateur aime décapiter les abeilles et manger leur thorax rempli de protéines. Responsable de la disparition de nombreuses colonies, ce frelon serait arrivé de Chine dans un convoi de poterie il y a 10 ans. Depuis, il a colonisé une grande partie du pays. Les habitants fabriquent des pièges maison.
Si rien n'est fait, les apiculteurs sont appelés à disparaître dans les 5 prochaines années. Surtout les amateurs. Mais les amateurs, c'est 50% du cheptel national.
Voilà, ennemi public numéro 1, le frelon asiatique en ce moment. Illustration des relations parfois très conflictuelles entre les hommes et les insectes, hein, Christophe Bouget. Un exemple parmi tant d'autres.
Absolument. Et illustration également de ces fameuses espèces qu'on appelle invasives ou envahissantes, hein, qui jouent les autostoppeuses, c'est-à-dire qui profitent des transactions commerciales internationales pour passer d'un continent à l'autre. Alors, en Europe et en Amérique du Nord, on a depuis une vingtaine d'années beaucoup d'espèces dites asiatiques. Le frelon asiatique, la coccinelle asiatique, le capricorne asiatique, qui justement profite des flux de matière. Alors pour le frelon asiatique, comme ça vient d'être dit dans votre reportage, arrivé supposé en 2004, avec des poteries asiatiques, probablement chinoises, et puis une expansion territoriale suivie par le muséum d'ailleurs depuis lors. Et ce qui est vraiment intéressant de signaler avec ce cas du frelon asiatique, c'est qu'il n'est pas envahissant dans son écosystème d'origine. Pourquoi ? Parce que dans son écosystème d'origine, l'évolution a fait que des mécanismes de régulation naturelle existent entre ses proies, qui sont les abeilles indigènes, et puis le prédateur, lui, le frelon. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, au Japon, les apiculteurs n'ont jamais réussi à implanter l'Apis mellifera d'Europe dans leur structure apicole, parce qu'ils font une grande confiance à leur abeille Apis serrana locale, qui a un stratagème de défense naturelle contre le frelon.
Et comment ils se débrouillent ?
C'est tout à fait incroyable. En fait, les abeilles se regroupent à l'approche d'un frelon près de la ruche, elles se regroupent en grappes, et elle crée une surchauffe autour du frelon.
En battant des ailes ?
En battant des ailes,
absolument. Elle
font monter la température. La température au-delà de la température létale du frelon, mais en deçà de leur propre température létale. Et la nature fait que voilà, la leur est à 48-50 degrés, celle du frelon est à 44-46 degrés. Elles font monter la température à 47 et le frelon est desséché.
Ouais. Arnaud Relou, alors sur le suivi de ces frelons, pour en dire encore un tout petit mot, on arrive aujourd'hui à vraiment brosser une carte de leur déplacement.
Alors oui, de leur déplacement, pas tellement, plus de leur implantation en fait, hein, parce que ça se déplace très vite, mais ce qui est intéressant, c'est de voir où se fondent les nids, où se fait la reproduction et donc les nouveaux foyers. Mmh. Effectivement, ça a été bien suivi par une équipe au muséum, donc L'Envillement et Quentin Rome. Et effectivement, d'ailleurs, c'est un des. On s'est beaucoup appuyé aussi sur la science participative là-dessus, hein, sur les témoignages du public. Tout simplement parce que c'est une espèce qui est quand même assez facile à reconnaître, même si on doit quand même trier un peu parce que souvent n'importe quoi est perçu comme un danger, comme ce frelon. Mmh. Mais globalement, on a effectivement une bonne idée à l'heure actuelle. Ouais.
Roberto nous envoie ce message. Le commerce d'insectes qui est énorme et surveillé en Amérique latine, sauf en Guyane parce que c'est le territoire français, c'est donc devenu le paradis des entomologistes amateurs et surtout des vendeurs d'insectes. Suite aux accords de Nagoya, la législation va-t-elle changer ? Demande Roberto. Il ne faut pas oublier le rôle justement des entomologistes amateurs parce que c'est souvent eux qui découvrent de nouvelles espèces, on le disait tout à l'heure.
Alors deux dimensions en fait dans le commerce des insectes ou même des espèces, hein, la dimension nationale et la dimension internationale. C'est le droit national qui va réguler effectivement ce qu'on peut faire ou pas, et en Guyane on a quand même, par rapport à cette zone, hein, par rapport au Suriname, par rapport à Guyana, une législation qui est assez costaud, hein, la législation française. Mmh. Et puis après il y a le droit international, et là on est plus régulé par la convention dite de Washington, la convention CITES, qui effectivement va dire quelles sont les espèces qui sont en voie de disparition et celles sur lesquelles il faut éviter que le commerce ne devienne un facteur supplémentaire de disparition.
Christophe Bouget, pour terminer, il faut quand même parler de la contribution des insectes dans notre vie de tous les jours, parce que là, on voit vraiment le mauvais côté des insectes, mais c'est loin d'être le cas, et On leur doit beaucoup, dans tout un tas de circonstances d'ailleurs.
Exactement. C'est vrai qu'on a parlé de ravageurs, de pullulations, ouais, d'invasifs, de nuisibles, etc. Mais
ils sont aussi des alliés de l'homme.
Mais ça paraît important de le rappeler. Mmh. Alors c'est ou simplement des fournisseurs officiels de matériaux, de matières, et on pourrait en dresser le catalogue de la soie au miel, par exemple. Mais ça me paraît important de souligner leur rôle dans ce qu'on appelle les services écosystémiques rendus aux écosystèmes.
Donnez-nous quelques exemples concrets.
Les principaux qui sont assumés par les insectes ont été bien quantifiés par des écologues et des économistes nord-américains. Les principaux sont la décomposition de la matière organique, par exemple les déjections animales, la pollinisation, ouais, des plantes cultivées, le contrôle biologique, la lutte biologique, le fait que certains insectes sont des ravageurs pour d'autres qui sont des prédateurs, pardon, pour d'autres, mm-hmm, qui sont des ravageurs, et enfin la provision de proies pour les insectivores. Et les économistes avaient estimé que c'était de l'ordre de 60 milliards de dollars par an qu'on pouvait.
Donc ça, c'est l'estimation sur les services rendus par les insectes pour les États-Unis, par exemple.
Pour ces quatre services qu'on vient de mentionner. Ouais. Alors c'est vraiment des estimations qui font réfléchir. Et ouais, puis on a dans l'histoire de l'homme des exemples vraiment flagrants de cas qui démontrent le rôle de ces insectes dans les services écosystémiques importants.
Par exemple,
j'en prends un, ouais, qui me paraît vraiment sensible. C'est le cas des bousiers australiens. Dans les années 60, l'élevage de bovidés s'est développé en Australie, dans un territoire où les bovidés n'existaient pas. Ouais. Et donc, les scarabées coprophages qui enfouissent les bouses n'existaient pas. N'existaient que quelques espèces qui étaient chargées, ouais, d'enfouir les crottins de kangourous. Et ça ne suffisait pas pour enfouir les bouses.
Donc, accumulation
dans les années
de
60,
bouses,
accumulation de bouses, au point que 1 million d'hectares de pâturage par an étaient condamnés.
C'était
par
dramatique,
couche,
hein,
de bouses desséchées. 1, ouais, million d'hectares, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est presque l'Île-de-France. L'Île-de-France, chaque année,
sous
condamnée.
Sous la bouse.
Sèche. Et grâce à l'activité d'un entomologiste d'origine hongroise, qui s'appelle Bornemissa, qui a été depuis félicité par le gouvernement australien, donc dans les années 60-65,
oui,
il est allé chercher des scarabées coprophages dans le bassin méditerranéen et dans l'Afrique du Sud, dans des conditions analogues à celles de l'Australie. Il les a implantées en Australie, introduites, et depuis, la situation s'est résorbée. L'élevage bovin est florissant en Australie, mais les pâturages, entre guillemets, sont maintenus dans un état, dans un état correct.
Et là, du coup, ces bousiers ne posent plus de problème non plus, parce que le fait d'introduire aussi en nombre ces insectes, on ne peut pas avoir des dérives aussi à moyen terme,
hein. Ça pourrait être le cas. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de dérive possible puisqu'il n'y a pas de compétiteurs locaux. Mmh. Donc, ils ont occupé une niche qui n'était pas occupée. Donc, il n'y a pas d'effet direct sur la biodiversité australienne.
Arnaud Aurélou, donc, insistait, hein, effectivement, sur les bienfaits aussi des insectes, parce qu'on a un peu trop tendance à l'oublier. Comment on pourrait les protéger, d'ailleurs, aujourd'hui? La situation étant critique dans certains domaines, on pense aux abeilles en particulier. Comment concrètement on pourrait agir pour
Alors,
essayer de les conserver?
La première action pour essayer de les protéger, c'est de savoir ce qu'on a autour de nous. C'est de les connaître.
Ouais.
Et ça, c'est pour ça que c'est le rôle même des inventaires, hein. Que ce soit pour les aménageurs, pour les décideurs, pour les gestionnaires, même pour le citoyen, c'est de les connaître. Et pour les connaître, il faut donner envie aux gens de les connaître. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, au Muséum, on a développé une petite application qui se, ouais, télécharge sur mobile, sur téléphone mobile, l'INPN Espèce,
ouais,
qui permet à tout un chacun de savoir quels sont les insectes, ou toute autre espèce d'ailleurs, qu'il y a autour de lui. Et ça, c'est vraiment génial, et ça permet de s'introduire, de s'introniser à ce milieu.
Voilà, INPN Espèce, hein, et il est en lien également, cette application est en lien
sur le Google Store et sur l'Apple Store.
Le site de la Tête au Carré. Fabrice Drouel, ce sera dans quelques minutes avec Affaires Sensibles pour parler de l'Iran, la première partie avec la chute du chat. Et puis merci beaucoup à tous les deux, Christophe Bouget et Arnaud Aurélou, avec ce livre Secrets d'insectes, mille et une curiosités du peuple à six pattes, et c'est aux éditions Kouaé. Merci beaucoup.
Merci à vous.